Partout au Québec. Partout au Québec. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Fabi la nuit.
Voici Jacques Fabi.
Alors, nous sommes en compagnie de Maître Jean-François Gay. C'est la chronique « Prendre la route ». On en est maintenant aux essais routiers. Alors, Jean-François, d'abord, tu as essayé un énorme VUS, c'est-à-dire le nouveau Volkswagen Atlas Cross Sport.
Oui, quand tu dis énorme, là, il mesure pratiquement 5 mètres de long. Puis ça, c'est une nouvelle tendance, Jacques, dans l'industrie automobile, là, du ouais. côté des VUS. Ben là, il y a de la classe conventionnelle, régulier, là, avec une partie arrière qui est, disons, un peu plus carrée. Alors que dans le cas du Crossport, c'est que le haillon, là, c'est comme un coupé. Ça fait un peu comme une voiture hatchback, un peu, là. Ça, c'est pour essayer de donner une ligne un petit peu plus sportive à la classe. Et on retrouve ça, mettons, du côté de BMW. C'est BMW qui avait inauguré le concept en 2008 avec le X6, qui était un modèle coupé du X5. Après ça, tu as eu le X4 par rapport au X3. Mercedes a fait pareil avec le GLE. Le GLE, tu as le format régulier puis le format coupé. Le GLC aussi, puis tu as le Porsche Cayenne aussi depuis cette année, qui est un modèle coupé. Donc, cela dit, on pourrait-tu penser que...
Mais moi, à quoi ça sert, là? C'est honnêtement, des fois, je regarde passer ça, là, entre autres la BMW X6, on a l'impression que c'est une voiture, mais qui est plus haute sur pattes.
Oui, effectivement, c'est comme une voiture plus haute sur pattes, puis c'est pour ça qu'on appelle ça un multisegment. Mmh. C'est que c'est une espèce de métissage, si tu veux, entre une voiture puis un VUS traditionnel.
T'aimes ça, toi, ou...
Ben, le X6, oui, j'aime beaucoup la conduite de ce véhicule-là. J'aime le look aussi, Mercedes GLE aussi. Mais concernant le Crossport, là, je m'attendais, moi, une conduite un peu plus sportive que la classe, mais c'est non. C'est vraiment le même type de conduite.
Il n'y a pas de différence, quoi.
Il n'y a pas vraiment de différence. C'est vraiment au niveau du look. Ils vont chercher une clientèle un petit peu plus large avec ça. Puis je vous dirais, moi, qu'à ma grande surprise, la classe... Si on combine les deux modèles, c'est sûr que là, la classe Crossport, c'est un modèle 2020. Mais si on regarde les ventes en 2019, la classe a fait tout un tabac, moi, je vous dirais, au Québec.
Oui, on en voit beaucoup.
On en voit beaucoup parce que le modèle le plus vendu dans la catégorie, là, on s'entend que c'est des VUS, c'est des multisegments grand format à 7 passagers. C'est le Toyota Highlander qui est le plus vendu au Québec pour Canada. Puis moi, je m'attendais à ce que ce soit le Honda Pilot en deuxième position ou le Chevrolet Traverse. C'est le Volkswagen Atlas qui est en deuxième position et de loin, en avant. Ben, il est pratiquement coude à coude avec le pilote. Il y a plus de ventes, mais il est de loin plus vendu que le Mazda CX-9 ou encore le Nissan Pathfinder ou le Chevrolet Traverse. Et cela dit, ben, c'est au niveau de la longueur, il est à peine 6 cm plus court que la classe conventionnelle. C'est le même empattement. Par contre, c'est un 5 passagers au lieu d'un 7 passagers. Ce qui fait en sorte que les places arrière, là, c'est énorme. Si vous voulez, moi, je connais un couple qui a acheté ce véhicule-là au lieu d'une mini-fourgonnette. Pourquoi? Parce que les portières à l'arrière sont immenses. Mm-hmm. Puis quand on rouvre ça, bien, la banquette est facile d'accès, exemple, pour installer des sièges de bébé ou des choses comme ça. Donc, c'est facile d'embarquer, débarquer aussi parce que le plancher est pratiquement plat. Parce que souvent, sur le bord de la portière, genre, tu as toujours un petit rebord, hein? Puis des fois, ben, on peut s'accrocher les pieds, puis c'est pas évident. Mais là, dans ce cas-ci, le plancher est pratiquement plat. Fait que c'est facile d'embarquer et débarquer. Donc, je vous dirais, la principale force de ce véhicule-là, c'est les places arrière, puis la grandeur du coffre. La grandeur du coffre, c'est immense, surtout quand on rabat la banquette arrière, là, il y a de la place. À l'avant, par contre, je vous dirais qu'au niveau... Bon, première des choses qui t'étonnent là, dans ce véhicule-là, c'est la grosseur du volant. Tu as l'impression qu'ils ont pris le volant d'une Volkswagen Golf, qui est une petite voiture compacte, puis ont installé ça dans un gros camion. Le volant est tout petit. La direction aussi, t'as pas l'impression de conduire un Vaux. On a toujours dit que tu avais une conduite autrefois d'une BMW, puis tu avais la conduite d'une Golf, d'un produit allemand, d'une Volkswagen. Là, tu as vraiment l'impression, tu sais pas qu'est-ce que tu conduis. Tu conduis-tu un véhicule américain? Véhicule japonais, coréen. Puis là, ben, tu dis, ben non, c'est un véhicule allemand. Là, non, l'agrément.
Peut-être que ça a été pensé pour les Américains.
Effectivement, ça a été pensé pour les Américains parce que la direction est une direction électrique qui est très légère, là. Tu sais, c'est pas une direction qui est ferme. suspension aussi très mollassonne, très souple. Par contre, qui filtre bien les imperfections de la chaussée. On a besoin au Québec. Mmh. C'est un véhicule qui est solide. Tu vois que le châssis, c'est la dernière génération de la plateforme, là, le MQB qu'on appelle. Puis c'est une plateforme qui est très solide. Motorisation V6, 3.6 litres. Moteur un peu lent, un peu vache, si vous pouvez me permettre l'expression. Par contre, ben, coudonc, il est capable de tracter 5000 livres. Les gens qui veulent tracter un bateau, une roulotte, ça peut tracter 5000 livres. Vous pouvez opter aussi pour le 4 cylindres. Un 4 cylindres turbo, 2 litres, 235 chevaux versus 276 chevaux pour le V6. Je vous dirais, moi, à mon grand étonnement, ça fait la job, le 4 cylindres. C'est sûr, si vous voulez tracter une petite roulotte, quelque chose, ça marche pas parce que vous pouvez tracter seulement 2000 livres. Mais pour le reste, ça consomme un petit peu moins d'essence, c'est moins cher à l'achat. C'est sûr que le moteur est un peu moins silencieux. Toujours une transmission automatique à 8 rapports avec les deux moteurs.
Oui. Et comme c'est souvent le cas chez Volkswagen, il y a quand même plusieurs versions.
Oui, il y a plusieurs versions. Automatiquement aussi, vous avez la traction intégrale qui est tirée. Mais vous avez seulement trois versions. Vous avez la Threadline, qui commence à 39 000 $. Vous avez la Comfort Line, puis la version tout équipée qu'on appelle la X-Line. Mais là, on parle d'un prix qui commence à 54 500 $ plus des petites options, certaines options. Donc, ça peut,
la facture monte rapidement quand même. Ouais. Je sais que chez les chroniqueurs automobiles, il y avait toujours un peu de... parler souvent de la fiabilité ou de la non-fiabilité des produits Volkswagen. Alors, qu'en est-il de cette Volkswagen Atlas? Est-ce qu'il est un peu tôt pour parler de ou pour dresser un bilan de sa fiabilité ou de sa non-fiabilité?
Ben moi, je vous dirais, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. On parle quand même d'un véhicule assez récent au niveau de la classe. Dans le cas du Crossport, on s'entend que c'est la même motorisation. Mais je vous dirais, mon Volkswagen a fait certains progrès, même si j'ai entendu à travers les branches là, qu'il commence à avoir des petits problèmes avec les 4 cylindres turbo 2 litres. Là. Mmh. Mais ça sera vérifié. Là. Je pense que l'APA travaille là-dessus actuellement. Ouais.
Mais ça, il y a tellement de rappels, et ça concerne à peu près tous les constructeurs automobiles. On a l'impression qu'aujourd'hui, on les fabrique un peu vite à la chaîne, et faut croire que ça donne pas toujours des résultats escomptés. Hein.
Mais tu vois, la classe est fabriquée aux États-Unis, à l'État du Tennessee. Puis on s'entend qu'au niveau de la finition, c'est pas un Audi, là. On s'entend, les plastiques, là, ça laisse à désirer à certains endroits. Par contre, des endroits où on est moins porté à regarder ou sinon à toucher, là. Je pense à l'intérieur, admettons, à l'intérieur des portières, tout ça, ça pourrait être de meilleure qualité. Mm-hmm. Puis au niveau du design aussi, là, je vous le dis, là, c'est comme s'il avait pris un 2x8 puis il l'aurait boulonné pour faire un tableau de bord, là. C'est vraiment rectiligne. Il y a pas de flafla, il y a pas de courbure, là. Les gens qui aiment les commandes puis les cadrans à perte de vue, là, comme dans un avion de chasse, admettons, là.
Ouais, vous serez déçus, quoi.
C'est vraiment simpliste.
Parfait. Ouais. Alors voilà pour la Volkswagen Atlas, disons, pour les grosses familles. T'as essayé, ça c'est ton dada, ça, t'aimes ça, toi, les Mustangs.
Ben oui.
Et double plaisir, t'en as conduit deux au cours des dernières semaines.
Oui, j'ai essayé le modèle coupé avec le 4 cylindres EcoBoost Turbo 2.3 litres. Mais la version High Performance, si on veut, haute performance en français. Ce moteur-là développe 330 chevaux. Vous avez aussi la version d'entrée de gamme qui est à 310 chevaux. Et je vous dirais, bon, une Mustang avec un 4 cylindres, c'est pas nouveau. Le premier 4 cylindres turbo 2.3 litres, la même cylindrée, est offert en 83. On remonte à loin, en 1983. Les plus vieux aussi vont se rappeler de la fameuse version SVO avec le 4 cylindres, toujours le 2.3 litres. Ça, c'était produit entre 1984 et 1986. À l'époque, le moteur avait 175 chevaux. Là, on parle de 330 chevaux. Genre que c'est le même moteur que Ford a offert dans la Focus RS. Il y a quelques années, qui a été discontinué. Là. À l'époque, il n'y a pas longtemps, ça fait 2 ans, c'était une petite Focus 4 roues motrices avec un 4 cylindres de 350 chevaux. Là, on s'entend que le moteur était placé de façon transversale à l'époque, parce que c'était une traction avant, un rouage intégral. Là, c'était de façon longitudinale, parce que c'était une propulsion, la Mustang. Bon, côté motorisation...
Ça fait bizarre à dire quand même que la Ford Mustang avait le même moteur que la Fiesta.
Que la Focus.
Oui,
mais la version RS, qui était une Focus d'exception, une Focus de rallye, avec un moteur de 350 chevaux.
Quand même.
C'était quelque chose. Mais là, ils l'ont boulonné dans la Mustang. Transmission automatique à 10 rapports. Bon, est-ce que ça fait... Moi, par contre, j'avais la boîte manuelle, mais ça vient qu'une automatique. La boîte automatique à 10 rapports, moi, je l'ai essayé avec le V8 de 5 litres dans la version GT cabriolet aussi que j'ai essayé. Je vous dirais, cette transmission-là est sublime. Elle fait un très bon ménage avec le V8 parce qu'il fait une époque où Ford avait, avec le V8, les Mustang, par rapport au Camaro notamment, les transmissions automatiques, ça rendait pas justice au V8. Tout le monde optait pour la boîte manuelle parce que le moteur étouffait, là. Il pouvait pas exploiter le couple du moteur. Mais là, la transmission automatique à 10 rapports, là, je vous dirais, là, le moteur, il s'exprime amplement, puis c'est extrêmement efficace.
Parce que là, je regarde la liste des possibilités au niveau des moteurs. La liste est assez impressionnante quand même. Pas évident de s'y retrouver, là.
Non, c'est vrai, parce que tu vois, comme on dit, il y a le 2.3 litres, le 4 cylindres turbo, 310 ou 330 chevaux. Vous avez le V8 5 litres, la version GT à 460 chevaux. Vous avez aussi la version bolide. Version bolide, là, le V8 5 litres, c'est 480 chevaux. Après ça, on continue. Si vous y allez avec la version GT, la Shelby GT 350, puis la Shelby GT 350R, moteur V8 5.2 litres, moteur atmosphérique en passant, il n'y a pas de turbo là-dessus, 526 chevaux. Puis là, le NEC plus Ultra, là, c'est la nouvelle Shelby GT 500 V8 suralimenté par compresseur, 5.2 litres, 760 chevaux.
Ah, hey, monsieur, une fusée.
Oui. Donc, c'est ça, tu sais, c'est pour ça que les prix, si on regarde les chutes de prix, ça varie de 39 000 à 95 000 $. Mais si on regarde le coupé, là, tu sais, on va rester là sur Terre, on regardera pas les versions trop dispendieuses. Si on regarde le modèle, le coupé, le prix varie de 39 000, ben là, je me suis trompé, mais en tout cas, c'est de 39 000 à peu près à 42 000, là, entre le moteur 4 cylindres et le V8. Puis si vous y allez avec le cabriolet, ça varie de
37 000. Mais là, on manque de temps quand il y a tellement de modèles, tu dis que ça peut monter jusqu'à 94 000. Paieras-tu 94 000 pour une Ford Mustang?
Ben ça, là, on s'entend, c'est la Shelby GT 500 avec un moteur de 760 chevaux. On s'entend, là, que il y aura pas beaucoup de voitures qui vont se vendre, Jacques, c'est surtout... C'est un modèle permettre à Ford de s'imposer.
Ben, on s'en parlera, il faut s'arrêter malheureusement pour la pause. Si vous avez des questions pour Jean-François, c'est le prochain segment.